Docteur Philo. L'heure philo jusqu'à 21h, Henri-Marc Mutel à la réalisation, Chantal de Montagny à la préparation, Djoubaka choisit les disques et Loïc Frapsos est à la console. François Julien est notre invité ce soir pour parler beaucoup de son livre L'incommensurable et aussi un peu d'un autre ouvrage, Moïse ou la Chine. Les deux sont publiés aux éditions de l'Observatoire.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
François Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de parler de l'incommensurable, j'aimerais évoquer avec vous votre carrière, plutôt votre parcours et vos travaux, des livres que vous avez publiés, des livres menés par d'autres sur votre pensée, il y en a un certain nombre. Vous êtes philosophe, parcours d'excellence peut-on dire, hein, École normale supérieure, puis agrégation. Vous êtes sinologue, vous avez étudié à la fois la langue et la pensée chinoise à l'université de Pékin et puis ensuite à Shanghai. J'ai envie de vous demander, parce que c'est assez étonnant effectivement, qu'un philosophe soit helléniste, c'est ce que vous êtes aussi d'ailleurs, bon c'est très bien, mais à partir du moment où on dit sinologue là, on se demande un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui vous a porté à fréquenter la pensée, la littérature chinoise?
Oui, si je suis philosophe, je viens des Grecs. J'étais d'abord helléniste. Et on dit communément, nous sommes héritiers des Grecs, mais que savons-nous de cet héritage tant qu'on n'en est pas sorti? Donc j'ai choisi de sortir de cet héritage, non pas par désintérêt pour la pensée grecque, bien sûr, mais pour aller ailleurs, dépayser ma pensée. Et j'ai choisi la Chine parce que la Chine est, disons, en dehors, à l'extérieur du cadre de la pensée européenne, et par l'histoire, et par la langue, voire par l'écriture.
Et donc c'est une façon. Il a déjà fallu apprendre à parler le chinois, enfin à lire et à parler le chinois.
Ah tout à fait, il a fallu. S'externer. Je suis allé en Chine, la Chine, Hong Kong ensuite. Pour effectivement me déplacer dans la pensée, donc dépayser, et non pas non plus me siniser, c'est-à-dire m'installer dans la pensée chinoise, mais à la fois éprouver ce que peut être sortir de nos cadres de pensée, et en même temps, je dis bien en même temps, non pas après, parce que sinon on ne revient jamais, tellement c'est long d'étudier la langue et la pensée chinoise, et en même temps réinterroger la pensée européenne de ce dehors, de la pensée, de la langue et de la pensée chinoise.
Ça veut dire que vous lisez, par exemple, les Grecs autrement aujourd'hui?
Oui, j'ai dit couramment, j'ai appris le chinois pour mieux lire Platon. Parce que on lit Platon du dedans, de la tradition européenne, et d'abord celle du platonisme. Mais si on relit Platon du dehors chinois, alors on se pose de toute autre question à Platon, ou à l'égard de Platon, notamment, Platon est dans la pensée de l'être, et si on passe en Chine dans une langue et une pensée qui ne pense pas en termes d'être, alors qu'est-ce que ça change? Et ça nous fait donc redécouvrir la pensée européenne dans sa singularité. Au lieu d'y voir une sorte de banalité du développement de l'esprit humain, on retrouve la grecque dans une singularité inventive. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'interroger du dehors chinois, de réinterroger la philosophie à nouveau frais, en l'interrogeant dans ce qu'elle n'interroge pas. Dans ce qui pour nous va de soi, ce qui nous paraît l'évidence, ce qu'on appelait la lumière naturelle, et donc l'interroger sur ce qu'elle ne pensait pas interroger, ou disons ce qu'elle ne pensait pas à penser. Donc pour moi c'est une stratégie pour essayer d'approcher l'impensé de notre pensée. Ce à quoi ma pensée est adossée et que par là même je ne pense pas. Donc avoir une prise, comme dirait Nietzsche, une ruse, n'est-ce pas, une sorte de voie oblique pour, disons, remonter dans notre raison, avant même que cette raison commence à s'expliciter, comme elle s'est fait magnifiquement dans la pensée grecque.
François Julien,
donc c'est une stratégie de pensée.
C'est une stratégie, c'est ça, c'est stratégique au départ en tout cas.
Pour moi, la Chine, si vous voulez, c'est un ailleurs opératoire pour, disons, réinterroger la philosophie dans ce qu'elle l'interroger dans ce qu'elle n'interroge pas, donc avoir une sorte de de voie détournée pour essayer de la débusquer.
Alors, dans le monde entier, un petit peu partout, j'ai vu, on s'intéresse à votre pensée, on traduit vos livres, on écrit donc sur vous, on organise des colloques autour de vous, sans parler d'ailleurs des instances prestigieuses que vous avez présidées, la chaire sur l'altérité que vous avez créée en 2011, je crois, à la Maison des Sciences de l'Homme. Est-ce que vous diriez que votre réflexion est interculturelle, est-ce que c'est le fait, disons, que votre réflexion soit interculturelle qui attise autant la curiosité? Et est-ce que vous diriez qu'au fond, vous êtes un homme universel?
Oh non, je ne prétendrai pas à cela. Mais disons, je crois qu'il y a une nouveauté dans notre histoire intellectuelle, c'est qu'avant nous pensions en Europe dans un cadre qui était l'Europe. Et donc l'histoire de la philosophie se faisait dans cette logique-là, et que nous sommes conduits aujourd'hui à considérer comment la pensée s'est développée dans toutes les cultures, avec des histoires différentes. Et je crois qu'on ne peut plus être un philosophe purement européen, me semble-t-il. Et donc on est amené à interroger les autres langues, les autres expériences de pensée, et de circuler entre elles. Donc mon souci, si vous voulez, c'est plutôt d'ouvrir la philosophie européenne à cet ailleurs, que j'ai choisi en Chine, il y en a d'autres, de façon non pas à faire du comparatisme, c'est pas de voir quelles seraient les ressemblances ou les différences entre les pensées ou les cultures.
Surtout pas.
Mais c'est d'organiser des vis-à-vis réflexifs qui fassent qu'on puisse, disons, réfléchir une langue et une pensée dans une autre, de façon à sonder cette impensée, et de façon donc à pouvoir renouveler le paysage de nos interrogations.
Et justement, au sujet de la pensée, est-ce que vous diriez qu'il y a forcément plusieurs niveaux de pensée, mais est-ce qu'il y a un niveau qui serait celui des universitaires, des spécialistes, des gens diplômés, et puis un niveau plus populaire, plus généraliste, plus grand public, comme on dit, et comment est-ce qu'on peut s'adresser aux uns sans tourner le dos aux autres?
Oui, c'est difficile, mais c'est la ligne de crête qu'il faut, je crois, tenir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans mes essais.
Sans être très médiatisé, parce que on vous entend rarement, on vous voit encore moins.
Non, mais je ne veux pas qu'on s'entende bien là-dessus. Je ne suis pas un philosophe d'opinion, qui pour moi n'est pas un philosophe. Qui est plutôt une sorte de pseudo-philosophe qui s'installe dans le marché des idées. C'est possible, mais je ne fais pas ça. Je milite pour une philosophie d'élaboration, donc de travail. Donc d'abord discrète, même si ensuite elle cherche à se rendre publique, non pas, disons, médiatique, mais public. Parce que je crois qu'il y a une demande de philosophie, comme on dit communément, puisque, disons, il y a un retrait du religieux, il y a les grandes utopies ont vieilli, et donc il y a une interrogation philosophique très largement répandue, je dirais même répandue partout. Mais qu'est-ce qu'on lui propose? Est-ce que c'est des slogans de pensée? Est-ce que c'est, disons, ce qui est dans l'audimat? Est-ce que c'est, disons, de proposer au public ce qui ne cesse d'être véhiculé dans l'opinion et le marché des idées? Ou est-ce qu'on lui propose des concepts pour élaborer des questions? Et je crois que le public est intelligent. Donc moi, je suis convaincu que on peut proposer de la philosophie exigeante à un public large. Alors après, évidemment, il faut avoir à la fois, bien sûr, dans mon travail, il y a une dimension d'histoire de la philosophie, mais que je n'explicite pas. Je m'en sers, mais je ne vais pas faire l'histoire de la philosophie dans mes livres, parce qu'évidemment, aussitôt, ça réduirait le public, mais aussi l'enjeu, mais aussi l'intérêt. Je crois qu'il y a nécessité à déployer la philosophie sans renoncer du tout à son exigence, et il y faut une part de métier, mais en cherchant à tourner l'interaction philosophique vers le plus grand public. Je crois que c'est légitime. Et c'est pour ça que j'écris des essais de philosophie, en espérant attirer le plus large public, mais sans du tout, consentir à quoi que ce soit qui soit du marché de l'opinion.
Ça, on a bien compris. Alors, voilà. Précisément, un concept peut-il changer la vie? C'est une des questions que vous posez dans ce livre que j'ai entre les mains, L'incommensurable. J'ai regardé déjà dans la définition, avant même de vous lire, dans le dictionnaire. Qu'est-ce qui est incommensurable? C'est ce qui n'est pas mesurable. Mais incommensurable, ça se rapporte d'abord aux mathématiques, et là, vous l'élargissez effectivement à la philosophie, en disant que les Grecs, eux, en voyant ce que c'était pour les maths, ont eu très peur de ça, ont même été horrifiés, ils ont mis la question sous le tapis.
Oui, alors, l'incommensurable, ça signifie qu'il n'y a pas de commune mesure. Ce n'est pas immense, c'est-à-dire qu'il dépasserait la mesure, c'est qu'il n'y a pas de commune mesure. Et ce n'est pas non plus une autre mesure, mais c'est qu'il y a une fêlure dans la mesure. Si vous voulez, le nombre pi, par exemple, en fait, ça signifie qu'il n'y a pas possibilité c'est-à-dire qu'il échappe à la prise des nombres entiers et des fractions, oui. Qu'il n'est pas rapportable directement à l'unité. Donc c'est un fait d'abord mathématique, c'est toujours intéressant parce que je ne suis pas en train de songer à un concept qui serait comme ça. Non, les mathématiques rencontrent ça, les Grecs l'ont rencontré, et effectivement ça leur a fait horreur parce que les Grecs avaient pensé le monde à partir des nombres. Et là ils trouvent une fêlure dans les nombres, cette non-commune mesure. Et elle est là, elle se constate. Donc, ils en sont étonnés. Cet étonnement, pour les Grecs, était légitime, puisque c'est le départ même de la philosophie. Au début de la métaphysique d'Aristote, l'incommensurable fait partie des faits étonnants qui donc suscitent l'interrogation. Simplement, ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette incommune mesure, ce fait qu'on ne puisse pas comme ça commensurer tout dans l'expérience, qu'il y a des hiatus de commensurabilité, effectivement n'a pas été un point saillant de la philosophie, parce qu'on a pensé sur le mode de l'absolu, on a pensé l'infini, les Grecs ont pensé dans ces termes-là, et disons, ont laissé l'incommensurable au sort des mathématiques, et aussi à la pensée de la monnaie. C'est vrai que la monnaie commensure, établit de la commune mesure, Aristote le dit très bien. Donc, ils ont pointé des lieux d'incommensurabilité, mais ils n'ont pas fait produit de philosophie de l'incommensurable. Et je crois que cela peut être fait parce que nous constatons tous dans l'expérience qu'il y a des fêlures de commensurabilité, des choses qui ne sont pas bord à bord, qu'il y a du hiatus dans notre expérience. Tout n'est pas comme ça, intégrable, sous une même mesure, sous une unité de la mesure. Alors c'est vrai que la philosophie classique, pensant l'un premier, cette pensée de l'unité, estompée ou effacée, ou en tout cas ne tenait pas compte de cela. Mais je crois que si nous réfléchissons à notre expérience, nous voyons qu'il y a ces fissures qui sont des fissures d'infini. Et qu'au lieu de penser seulement à l'infini comme aux extrémités de l'expérience, l'infiniment grand ou l'infiniment petit de Pascal, on voit que notre expérience est fêlée d'infini, et cette fêlure d'infini est justement ce par quoi nous pouvons déployer l'expérience.
Alors il y a un écrivain que, à titre personnel, j'aime beaucoup, qui a beaucoup marqué ma jeunesse, c'est Romain Rolland, qui dit à cette phrase que je trouve très belle, « La vie, cette fameuse vie que les gens estiment si précieuse, supérieure à tout, incommensurable avec les autres biens. » Alors il y a quelqu'un que je voudrais bien qu'on écoute ensemble, c'est Patrick Hochard, il se trouve que vous lui dédiez votre livre. Patrick Hochard, donc c'était au Collège de France en 2010, Henri Marc Mutel a retrouvé l'archive et il nous parle de Kant.
Le propos de Kant, c'est d'examiner comment la raison peut se prononcer ou peut connaître, plus exactement, peut s'efforcer de connaître quelque chose sur des objets, sur des choses, je dirais plutôt, qui, par principe, dépassent toute expérience. Donc sur des choses qui, en ce sens-là, donc sont appelées transcendantes, qui ne sont pas susceptibles, justement, donc d'être ni confirmées, ni contredites par l'expérience. C'est-à-dire essentiellement sur trois choses, le monde, avec la question, par exemple, le monde a-t-il un commencement ou non, etc. Bon, Dieu, et troisième partie, l'âme. Donc, le propos de Kant, c'est de s'interroger sur la possibilité ou l'impossibilité, et il va évidemment conclure à l'impossibilité, d'une théologie rationnelle, savoir quelque chose sur Dieu, savoir quelque chose sur l'âme, savoir quelque chose sur le monde dans son ensemble. Donc d'une théologie rationnelle, d'une psychologie rationnelle, d'une cosmologie rationnelle. Et le propos de Kant, c'est de montrer que en ces matières, sur ces choses dont nous ne pouvons pas véritablement nous désintéresser en quelque sorte, mais qu'en même temps sur lesquelles nous ne pouvons pas conclure, bon ça sera ça justement le propos, sur ces choses donc nous ne procédons que de manière dialectique et vide. Un concept sans intuition est vide, comme une intuition sans concept est aveugle. Vide, c'est le terme justement donc qu'Aristote employait à ce propos.
Voilà, c'était Patrick Hochard. Donc débrouillons-nous avec ça. Enfin François-Julien, je vous envoie la balle. La raison serait un obstacle?
Non. D'abord, je suis ravi que vous ayez choisi cet extrait. Patrick Hochard est un grand lecteur de philosophie. Et là, ce qu'il nous rapporte, c'est la dialectique transcendantale dans les raisons pures de Kant. Et ce fait que Kant appartient au XVIIIe siècle, donc il y a une pensée, disons, qui part de l'expérience.
Et il parle d'intuition aussi, hein, Patrick Hochard.
Oui, mais d'intuition sensible, qui vient des sens. Il n'y a pas d'intuition intellectuelle. Donc, tout nous vient par des sens, mais nous mettons en forme ce qui nous vient des sens par, disons, du formel, qui est pour nous d'abord celui d'espace et du temps, et puis des concepts, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui échappe à la prise des concepts, donc à la prise de la connaissance, c'est ce que Kant met sous le chapeau de la raison. Et là, il n'y a plus d'expérience possible. Donc, pour trois objets qui ont été dit, n'est-ce pas, le monde, l'âme et Dieu. Alors, c'est important ce que dit Kant là, c'est qu'il n'y a pas, disons, d'expérience directe par intuition de ces objets. En même temps, il ne faut pas oublier que Kant, il y a un autre Kant qui vient après, qui est celui qui des postulats de la raison pratique, où il va rétablir Dieu, il va rétablir l'immortalité de l'âme. Donc, si vous voulez, à la fois une pensée critique dénonçant ce qui serait un abus de croyance en la connaissance, parce qu'on n'a pas l'expérience directe de ces choses-là, et en même temps, il y a un retour dans une pensée, disons, un peu du réconfort, où on va postuler, rationnellement, certes, mais postuler néanmoins, eh bien, des choses qui sont quand même les vieux habits de la pensée européenne, à savoir l'immortalité de l'âme. Donc, si vous voulez, quand c'est un moment comme ça à charnière, enfin, comme toutes les grandes pensées d'ailleurs, à la fois qui remet en question la pensée, et puis quelque part, on rentre chez soi, ou on rentre dans, disons, un certain confort de pensée, ce qui était chez Kant, disons, c'est postulat de la raison pratique, où on remet un peu ce qu'on avait un peu, effacé. Mais ça va être de tous les grands philosophes. Il y a toujours un moment où on rentre chez soi, où on rentre dans une pensée déjà balisée. Donc la philosophie, c'est cet effort pour en sortir, sur d'héroïsme, pour en sortir, mais on ne sort pas indéfiniment, parce qu'on est dans une langue, parce qu'on est dans une idéologie, parce qu'on appartient à une époque. Et donc, c'est cet effort héroïque, et la question, c'est jusqu'où on peut aller. Où on peut porter cette prouesse de penser à nouveau frais, de penser par soi-même avec insolence, ou le grand mot platonicien, oser. C'est pas tolmétéon, il faut oser. La philosophie, c'est une audace intellectuelle, théorique, mais aussi d'existence, pour essayer de sortir des gonds, sortir, si vous voulez, des habitudes de pensée, donc du régime aussi de l'opinion, pour s'aventurer plus loin. Puis un moment où, bon, oui, on commence à rentrer chez soi.
Et la musique est un réconfort. Lady Blackbird, c'est un pseudo, hein. Elle s'appelle Marley Monroe. Elle est américaine et elle a une voix à tomber.
Torch my heart, burn my soul. Box of cinders, 5 feet tall. Truth be told. The branches fall, and I still feel 5 feet tall. Got it bad for you again. All I need is my heroin. Let me go. Touch my heart, burn my soul. Box of cinders, 5 feet tall. It was good.
François Julien est ce soir l'invité de l'heure philo jusqu'à 21h. François Julien, si je vous suis bien, l'humain est fêlé parce qu'il est, à un moment donné, il est dissocié du vivant, du reste du vivant. Alors, qu'est-ce qui le dissocie ? C'est la parole, c'est la connaissance, l'esprit ?
Oui, je dirais que l'humain a décoïncidé de la nature. Mmh. Il appartient à la nature. Simplement,
mais il est bon de le rappeler.
Oui, il est bon de le rappeler. Simplement, il s'est ouvert une histoire, il s'est promis en sujet, parce qu'il a décoïncidé, je dirais, de la grande coïncidence naturelle, et il s'est ouvert un destin propre. Et donc, il a introduit une sorte de fêlure par rapport au monde, un hiatus, une fêlure d'incommensurable, et aussi en lui-même, le grand vers de Baudelaire, moi, mon âme est fêlée.
Mon âme est fêlée. Il y a Baudelaire, mais vous parlez aussi dans votre livre, vous parlez de Rimbaud, vous parlez de Proust. La vraie vie est absente, en quelque sorte.
Tout à fait, la vraie vie absente, Rimbaud, ou la vraie vie, c'est la littérature à la fin La recherche du temps perdu. Je crois que la modernité, justement, a sondé l'incommensurable. Puisque, à l'époque classique, avant même, c'était Dieu qui récupérait, si je puis dire, la distance incommensurable de l'homme à Dieu. Et plus la tradition religieuse, biblique pour nous, n'a cessé de creuser cette distance d'incommensurable entre l'homme et Dieu, il n'y a pas de commune mesure. Mais avec le retrait du religieux, eh bien, l'incommensurable s'est davantage sondé au sein même de l'expérience humaine, et donc avec des lieux privilégiés, par exemple entre le plaisir et la jouissance, il y a une fêlure d'infini.
Je vous interromps un instant, mais c'est très intéressant tout ce que vous dites sur le plaisir et la jouissance, sur l'intime, tout ça qui nous fait peut-être percevoir au plus près les fêlures qui sont les nôtres.
À la fois, qui peut-être nous font souffrir, mais en même temps qui déploient notre existence. Mmh. Non pas seulement une vie, nous existons, c'est-à-dire en prenant le terme latin, nous tenons hors, se tenir hors, exister. Ouais. Alors le terme d'abord, c'est un terme de la théologie qui dit que les créatures existent parce qu'elles se tiennent hors de l'esprit de Dieu, ça c'est le terme médiéval. Mais ensuite, la modernité européenne a repensé ce se tenir hors pour le penser comme la condition même de l'humain se promouvant en tant qu'humain, seul l'homme existe. Seul l'homme peut se tenir hors de son environnement. Et ainsi, l'homme a ouvert des fêlures d'infini, d'incommensurabilité, oui, entre une relation intime et puis les rapports sociaux, c'est pas bord à bord, il y a du hiatus. Disons, oui, entre le plaisir et la jouissance, même si on dit que la jouissance, c'est la plénitude du plaisir, néanmoins, on voit bien que le plaisir reste dans le commensurable et que la jouissance nous en fait déborder. Et la jouissance communique avec la souffrance. Donc elle nous fait sortir de la commune mesure du plaisir et ouvre autre chose, qui est infini. C'est ça qui m'importe, c'est qu'il y a un infini de l'intime, il y a un infini de la jouissance, et le fait que notre expérience soit fêlée d'infini permet de la déployer. Non pas de la dépasser, c'est pas un dépassement religieux ou métaphysique, mais la déployer, c'est-à-dire ne pas la rabattre dans ce qui serait la banalité d'une expérience toujours dans la même mesure, la même communauté de mesure. Non, d'ouvrir cette aventure humaine. Et je crois que chacun le fait tous les jours. Mais encore faut-il y être attentif et ne pas recouvrir ou rater ces fêlures de commensurabilité.
Penseur et poète de l'intime s'il en est, Charles Baudelaire, faisons-nous plaisir, Le Balcon.
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. Les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses, que ton sein m'était doux, que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon.
C'était Alain MacMoy, c'était en 1959, ça laisse songeur notre invité François Julien. Dans la vie courante, dans la vie ordinaire, On est bien obligé de rabattre cet incommensurable dont vous nous parlez. Rabattre, ça veut dire, en tout cas, si par exemple on rabat les branches d'un arbre pour le rendre plus vigoureux, ça veut dire qu'on le diminue. On le rabat, mais on n'abat pas. Et ça, vous incitez bien là-dessus dans votre livre. C'est inévitable, c'est nécessaire pour vivre finalement que de rabattre cet incommensurable.
Rabattre est un sens précis. Je pense pas qu'on rabatte vraiment un arbre pour, disons, le faire prospérer davantage. Bah, ce qui serait élagué.
Ah,
je pense
oui,
qu'on rabat
oui, vous avez raison.
Parce qu'on veut lui couper la cime, parce qu'il dépasse, parce qu'il déborde, parce qu'il s'aligne pas, oui. Parce que donc il
vous
fait trop d'ombre, en fait, etc. Donc
vrai.
Rabattre est un verbe cruel, parce que c'était pas abattre qui au moins est franc. Rabattre, c'est couper ce qui dépasse. Or justement, c'est ce qui dépasse qui peut-être est important. Or je crois que nous menons
des vies rabattues.
Nous vivons des vies rabattues, il faut donc résister à cela. Vous savez comment on dit rabat-joie, n'est-ce pas ? Nous vivons des vies rabattues, et je crois que vivre, c'est justement résister à ce rabattement pour donner à notre expérience sa pleine dimension, la déployer. Et il me semble que rabattre est un verbe qui est inquiétant, parce qu'il ne cesse, et je crois que c'est peut-être de plus en plus le cas, n'est-ce pas ? Il y a le rabattement parce que, disons, le régime de l'opinion rabat, parce que c'est difficile et c'est exigeant de déployer l'expérience dans toute sa possibilité. Et donc rabattre, c'est une sorte de renoncement, c'est une sorte de...
D'évitement ?
Oui, mais... Je pense qu'on rabat très tôt, n'est-ce pas?
Mais est-ce que c'est lâche de rabattre?
J'éviterais le vocabulaire trop moral, n'est-ce pas? On fait comme on peut dans l'existence. Simplement,
On fait comme si.
Oui, je crois qu'on fait comme si.
On fait semblant.
En tout cas, je crois qu'il y a deux types de vie. Il y a les vies qui se contentent de cela, qui donc acceptent de rabattre, et puis celles qui résistent. Je crois que nos vies se choisissent entre est-ce que j'accepte ce rabattement parce que oui, c'est commun, ordinaire, etc. ou est-ce que j'essaie de résister et donc pour avoir une vie qui se déploie et qui, disons, assume les fêlures d'infini à travers lesquelles elle pourrait se déployer.
Mais vous écrivez aussi que le rabattement est quelque chose de bien plus redoutable que la perte des valeurs dont on nous rebat là aussi les oreilles.
Oui, parce que le rabattement se fait en fait à notre insu. C'est pas abattre, c'est rabattre. Et au fond, on se résigne à ce rabattement. Et on vit avec. Et finalement, on essaie de ne pas voir ce qu'on rabat. Donc il y a deux verbes en fait. Il y a rabattre d'une part, éviter de l'autre. Et nos vies sont souvent dans une sorte de compromis comme ça entre ce que j'évite et ce que je rabats. Et ce qu'on évite et ce qu'on rabat d'abord, c'est l'autre. On ne cesse d'éviter l'autre ou de rabattre cette, disons, émergence de l'autre. Et c'est ce qui fait que je crois qu'il faut penser... Parce que, vous savez, dans mon livre, il y a une chose que j'ai en cible. C'est quand même tout ce qui est ce marché du bonheur, du développement personnel.
Les leçons de bonheur, oui, ça
oui.
Vous plaît pas du tout.
Non, parce que ça remplit les librairies aujourd'hui. Ça fait commerce, n'est-ce pas ? Mais cette sorte de positivité facile, n'est-ce pas ? Elle est pauvre. Mm-hmm. Et je crois qu'il faut justement penser ce qu'il y a de fêlures dans nos vies, mais à travers lesquelles ces vies se déploient. Et donc, lutter contre ces rabattements... Et la bêtise, c'est aussi un rabattement.
Mais est-ce que vous pensez que l'autre, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu court de le dire comme ça, mais est devenu consommable en quelque sorte, que d'abord on le rapporte toujours à soi-même, et on en parle comme s'il était distant, comme s'il était abstrait, donc ça rend la rencontre pas très facile. Et peut-être que ça nous met nous-mêmes au pied de notre propre impossibilité.
Oui, mais je crois, absolument. Mais justement, pourquoi impossibilité ou pourquoi contradiction, mais contradiction féconde, c'est que on dit le rapport à l'autre. Mais si l'autre est vraiment autre, il n'y a pas de rapport. Et si l'autre se rapporte à moi, s'il y a un rapport, il est plus autre. Donc il y a une contradiction qu'il faut voir comme ça, ne pas la rabattre, cette contradiction. Mais c'est ce qui justement fait cette impossibilité, mais que nous ne cessons, disons, de chercher à rendre possible, qu'est la rencontre. La rencontre, elle est justement cette chose, disons, quasiment impossible, mais dont nos vies sont faites. À preuve, tous les romans parlent de rencontre. Et ce qui est quand même étrange, c'est que la philosophie européenne, classique, n'a jamais pensé à la rencontre. Parce qu'elle pensait un sujet maître de lui, autonome, dont la première propriété était la liberté, Et si vous avez cette conception du sujet, vous ne rencontrez personne. Vous croisez des gens, mais vous ne les rencontrez pas. Rencontrer, ça signifie que l'autre peut faire, là aussi, fêler, fissurer la maîtrise que j'ai de moi-même, la façon dont je me possède moi-même, et donc ma liberté. Et donc c'est très tard que dans la philosophie, on a commencé à penser la rencontre, et d'abord dans la tradition hébraïque, en tout cas chez Buber, puis chez Levinas, donc très tard par rapport au développement immense de la philosophie. Et je crois qu'il faut... C'est là que la littérature est importante, parce que ce que la philosophie ne pense pas, la littérature le pense. Elle récupère en quelque sorte le laisser de côté de la philosophie, et en lisant les romans, ben, on voit qu'il n'y a que des rencontres. Et nos vies sont faites de rencontres. Or, la philosophie l'a ignorée si longtemps, et je vois qu'elle est importante aujourd'hui. Moi, je ne prends pas la littérature comme illustration de la philosophie, je la prends comme un terrain d'expérimentation pour la pensée, pour essayer de récupérer ce que la littérature explore et que la philosophie a laissé tomber.
Emmanuel Levinas, précisément.
La relation intersubjective, la relation du moi à l'autre, est une relation non symétrique. Dans ce sens-là, je suis responsable de lui au-delà de ma vie, sans attendre une relation réciproque. C'est son affaire. Et c'est précisément dans cette mesure-là où je suis suggestion à autrui, de manière complète. Je suis dans ce sens-là sujet. C'est même dans cette responsabilité à autrui, dans cette obligation à son égard qui ne s'interroge pas sur la réciprocité, que je suis sujet. C'est moi qui supporte tout. Je cite souvent cette phrase de Dostoïevski: nous sommes tous responsables de tous et de tout, et moi plus que tous les autres. C'est cette responsabilité totale qui est responsable de tous les autres, même de leur responsabilité. Le moi a toujours une responsabilité de plus que tous les autres.
Vous voyez, Emmanuel Levinas puise chez Dostoïevski matière à réflexion. François-Julien, comme vous le faites pour beaucoup d'écrivains dans votre livre « L'incommensurable ». Autrui est transcendant et étranger à la fois.
Il y a un grand mérite à la pensée de Levinas d'avoir voulu sortir de la pensée de l'être pour penser l'autre. Pensée de l'être qui est intégrante, qui soumet au concept, à la généralité, et donc penser l'autre comme ce qui nous fait sortir de cette pensée de l'être intégrant, assimilant, dialectisant, etc. Mm-hmm. Donc, grand mérite de cette pensée d'avoir fait brèche. Et notamment, par rapport à ce qui a été la conception, je dirais, classique ou facile de l'autre, par rapport à soi, par un rapport d'analogie. Par analogia, n'est-ce pas? Je me dis, l'autre, ouais, il me ressemble, n'est-ce pas? Et c'est donc à partir de moi que je pense l'autre. La grande force de Levinas, c'est de penser l'autre, non pas à partir de soi, donc l'assimilant d'emblée, mais dans ce qu'il fait surgir, qui ne se rabat pas, justement, dans son étrangeté. Alors, ayant dit cela, j'ai le sentiment que j'ai souhaité m'écarter néanmoins de la pensée de Levinas, parce que, vous voyez, il a bien dit asymétrie. Mmh. Il y a donc cette idée qu'il y a une sorte de, disons, ce qu'il appelait responsabilité par rapport à autrui, c'est ce dont j'ai pensé m'écarter en considérant que c'était mon rapport à autrui plutôt incommensurable. C'est pas qu'il n'y a pas de mesure, c'est qu'il fêle cette commune mesure des rapports sociaux, et c'est ça qui fait émerger l'autre en tant qu'autre, et non pas rabattu dans une sorte d'intégration, dans une commensurabilité donnée. Le grand thème de Levinas, c'est le visage. Et c'est plus en termes d'infini qu'il en a parlé que d'incommensurable. Mmh. J'ai déplacé un peu l'analyse du côté du regard, n'est-ce pas?
C'est très beau, hein, tout ce que vous dites sur le regard.
Bah, il fait l'infini. Ouais. Parce que si vous voulez, par rapport à l'œil, par rapport au visage, il y a une fêlure d'infini qui se produit là. À preuve, c'est qu'on ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux plus de 30 secondes, même si je vous regarde dans les yeux, ça ne va pas durer longtemps. Donc on rabat. Et les paupières se rabattent, c'est ce rabattement qu'on évoquait, et puis à la mort, on rabat définitivement. Et donc, il y a quelque chose là que nous vivons tous à longueur de journée, et nous ne cessons d'éviter ou de rabattre ce regard de l'autre, qui donc nous met dans cette situation d'émergence d'un incommensurable qui ouvre à cette étrangeté de l'autre.
Est-ce que vous pensez, François Julien, qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, par exemple, la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine pourrait soutenir le regard d'un enfant ukrainien, très longtemps ?
Ou de tout homme qui ne serait pas sous l'idéologie imposée.
Exactement.
Oui, je crois que, parce que dès lors qu'on rencontre quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait plus. Sinon, on le croise, n'est-ce pas ? On rabat, on évite, etc. Mais si on commence à rencontrer, avec ce que rencontre à d'exigeants, une rencontre ne se passe jamais totalement comme on l'a prévu. Quelque chose qui est soudain, qui se découvre dans la rencontre, qui se découvre, et dans la rencontre, il y a du contre, comme on dit en allemand, Begegnungen, n'est-ce pas ? Il y a du contre, donc la rencontre, ce n'est pas une chose facile, c'est une chose qui vous engage et qui, disons, fait, pour reprendre ce terme, la propriété qu'on a de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Notre liberté aussi. Et donc, il y a une fraction là-dedans. Donc, je crois que dès qu'on a vécu une rencontre avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait plus avec lui. Ou alors, on met fin à la rencontre et puis on le rabat dans la commune mesure. Donc, et c'est peut-être que la rencontre est éthique, profondément éthique, parce que ce n'est pas la morale du commandement, ce n'est pas non plus le sentiment de pitié comme chez Rousseau ou chez d'autres. Non, c'est que la rencontre est exigeante et elle est choisie, parce qu'on croise des gens tout le temps, mais de les rencontrer, c'est quelque chose qui vous...
Alors qui vous éveille
et qu'on choisit.
Quelque chose qui vous éveille ?
Oui, parce que c'est une découverte où c'est quelque chose, c'est, disons, sortir, justement, se tenir hors de soi, la rencontre. C'est ça. Donc je crois que dès lors qu'on sort de soi, qu'on n'est plus dans la coïncidence de soi avec soi, quelque chose d'éthique émerge. Et effectivement, si Poutine rencontrait... les Ukrainiens, voire les Russes qui protestent, n'est-ce pas ? Ça serait plus possible. Il y a des choses qu'on ne fait plus.
Vous parliez tout à l'heure, François-Julien, de résistance. Est-ce qu'on peut résister, par exemple, à une guerre au nom de l'incommensurable ?
Je crois que cette question est essentielle, c'est la dimension politique de l'incommensurable. Et de se dire, au fond, au nom de quoi je peux effectivement résister ? Or, ce n'est pas au nom de l'absolu, ce n'est pas au nom de l'infini, c'est surtout pas au nom de Dieu, parce qu'au nom de Dieu, on a fait plein de choses. Je pense que c'est au nom du fait qu'il y a des choses qui sont sans commune mesure.
Oui.
C'est au nom de quoi je résisterai à la Shoah, je résisterai au terrorisme, je résisterai à l'inhumain. Parce que, vous voyez, même, je prends des choses. Entre un vol et un viol, il y a de l'incommensurable. Il n'y a qu'une lettre qui change dans la. Le mot. De même, je parle dans mon livre, parce que c'est une question importante, le trafic des organes, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est une marchandise comme les autres ? Non. Il y a de l'incommensurable entre nos organes et puis les objets de commerce. Donc je crois que, au nom de l'incommensurable, c'est effectivement l'ultime argument politique pour organiser une résistance. Et c'est ça qui est, c'est l'expérience commune, partageable, n'est-ce pas ?
Universelle. Je pense à ça parce que, enfin, je vous pose la question parce que vous êtes habitué, et vous l'avez dit déjà, à confronter des systèmes de pensée. Vous le faites d'ailleurs dans cet autre livre que j'ai évoqué au début de l'émission, Moïse ou la Chine. Est-ce que on pense l'incommensurable dans le monde entier ?
Non, je crois que les concepts sont une émergence locale, historique.
Local, j'aime bien le
oui,
mot.
Local, oui, oui. C'est dans la localité philosophique européenne.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce que l'expérience, elle, ne peut pas être pensable, n'est-ce pas, dans toute l'humanité ? C'est ça qui est l'enjeu. Et c'est ça le travail de la philosophie. C'est de partir de concepts qui, au départ, s'élaborent de façon ponctuelle, dans, comme ça, une sorte de treillis de concepts adjacents, et puis de voir quelle expérience y répond. Or, je pense que cette expérience-là, elle est universalisante, je dirais. En donnant un sens actif à universel, elle produit l'universel, elle promeut l'universel comme un au nom de quoi, partout dans le monde, on peut organiser une résistance.
Mmh. Albin de la Simone Yael Naïm, Tina Sili, épouse-moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi.
Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison diffèrent, mon amour, mon poison violent.
Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili, Tina Sili.
connu la guerre, les tranchées dans l'appartement. Pour cela, j'étais bien trop fière. La mort a frappé finement.
Si nous avons croisé le fer, c'est dans le coton seulement. Mais mon amour, tu le vois rouge se faire que je voulais blanc.
Tinasili, Tinasili, Tinasili.
Martin.
François-Julien, vous êtes donc ce soir notre invité pour deux essais, L'incommensurable et puis Moïse ou la Chine, dont on va un tout petit peu parler. Vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, vous avez parlé un peu de Dieu, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre. Est-ce qu'il a servi aux hommes à maîtriser en quelque sorte l'incommensurable, à mieux accepter cette fêlure qui nous vertigineuse sur l'infini?
Oui, je crois qu'il nous a aidés, l'idée de Dieu, à la reconnaître, et en même temps il l'a intégrée, donc quelque part il l'a rabattue. Alors voyez, ce que je souhaitais faire, c'est de reprendre cette question de l'incommensurable pour en faire un concept de combat, et, y compris le combat politique. Donc Dieu a été, dans toute l'époque classique, c'est un peu le couvercle qui a recouvert l'incommensurable, donc l'a pris en charge, mais en même temps nous en a déchargé. Et je vois la pensée moderne, justement, retirant cette figure de Dieu, en tout cas pouvant le faire, est amenée à reconnaître et à plus assumer, n'est-ce pas, cette dimension d'incommensurable qui nous fêle, moi mon âme est fêlée, mais qui nous porte justement à déployer l'expérience.
Et dans Moïse ou la Chine alors, est-ce que donnez-nous envie de lire ce livre? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Donc je disais tout à l'heure que vous y confrontez au fond deux systèmes de pensée.
Oui, je ne sais pas si ce sont des systèmes de pensée,
non, enfin,
c'est des cohérences de pensée, voilà, c'est des traditions de pensée.
Oui.
Mais bon, la phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Pascal. Il faut quand même, dans les pensées de Pascal, cette phrase si forte qu'il a barrée, qu'il a retirée, lequel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine? Je trouve cette formule magnifique. Pourquoi? Parce que elle établit une sorte de vis-à-vis de la tradition chinoise qu'on connaît très peu à l'époque. Et de la tradition européenne.
Mais qu'est-ce qu'il en connaissait d'ailleurs, Pascal, à l'époque?
Parce qu'il y a les missionnaires qui sont allés en Chine.
Oui,
et puis il y a une, disons, on a découvert finalement que nous pensions que notre histoire c'était Adam et Ève, l'histoire sacrée, donc, et puis après l'Égypte d'un côté, la Mésopotamie de l'autre, et puis nous, les Grecs, les Latins et nous. Et on découvre qu'il y a une autre histoire, ce qu'on appelle le cas chinois à l'époque, en dehors de notre généalogie européenne.
Et Pascal a ouvert sa pensée à ça, lui qui a été.
Était
quand même extrêmement croyant.
Oui, mais c'est le génie de Pascal.
Joie.
C'est le génie de Pascal.
Révélation.
Absolument.
Divine.
Oui, mais aussi grand mathématicien. Donc c'est quelqu'un qui a, ce génie, cet effrayant génie qu'est Pascal. Et cette formule est très forte parce qu'elle ouvre une alternative culturelle. Et en même temps, l'alternative est bancale. Parce que d'un côté, c'est Moïse, figure incarnant l'aventure religieuse de l'Europe, donc le monothéisme, les commandements, et puis la terre promise à l'horizon. Et en face, non pas Confucius, Lao Tzu ou un chinois, un sage chinois, mais la Chine. La Chine, donc, espace de pensée dont Pascal ne connaît quasiment rien, mais dont il voit la force d'objection qu'elle constitue vis-à-vis de la pensée européenne. Pensez que Bossuet, après Pascal, quand il rédige et écrit sa fameuse « Histoire universelle », ne cite pas une fois la Chine. Ce dont Voltaire se moquera. Donc Pascal a le génie de voir qu'il y a, disons... Alors j'aime beaucoup la formule aussi de fin quand il dit « il faut mettre papier sur table ». Il faut effectivement ouvrir ce dossier qui est la grande affaire de Dieu telle qu'elle s'est tramée en Europe. Et puis, le cas chinois qui n'est pas contre Dieu, qui est simplement que Dieu, c'est pas très intéressant. Qu'il y a des, que la tradition chinoise a connu l'idée de Dieu à très haute époque, enfin de Dieu, oui, le Seigneur d'en haut, donc quelqu'un qui domine le monde humain, auquel on sacrifie, qu'on craint, enfin, figure de Dieu banale, je dirais. Mais s'en est progressivement retiré, plutôt l'a marginalisé, ne l'a jamais critiqué. Donc c'est pas l'athéisme, chose qu'on connaît aussi bien que l'affaire de Dieu, n'est-ce pas? Ça va ensemble. Épicure face à Platon. Non, c'est pas ça. C'est simplement que une autre cohérence s'est développée sous le terme de ciel, donc de la corrélation entre ciel et la terre, la régulation du monde, le fait que si je le souverain qui démérite, il perd le mandat du ciel et donc il est évacué, et il y a donc une sorte de régulation de l'histoire. Bref, tout ça a fait que la nécessité de l'idée de Dieu s'est progressivement refermée, en tout cas ne s'est pas déployée, et je crois que c'est intéressant à penser aujourd'hui, parce que on voit qu'il y a des cohérences culturelles, par la langue, déployées par la culture, qui nous donnent à penser, c'est pas seulement pour ou contre Dieu, le religieux ou l'athéisme, mais quelque chose que nous fait apparaître la Chine, c'est que l'idée de Dieu ne se déploie pas. Et donc, une cohérence, c'est ça qui a tant fasciné d'ailleurs la pensée des Lumières, ce qu'on appelait le catéchisme chinois, la fameuse religion des Chinois qui serait si tolérante, c'est qu'au fond, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance en Dieu qui exclurait d'autres croyances. Il y a, disons, l'idée qu'il y a une régulation du monde. Et sans doute, les Chinois ont été, on peut penser l'autre, on peut penser la fêlure d'incommensurable, parce que la première figure de l'autre pour nous comme étrangers, c'était Dieu. Donc je crois, si vous voulez, qu'on voit qu'il y a une diversité des possibles de pensée. C'est ce qui fait le... Dans mon travail, c'est ce que j'essaie d'explorer. Quand, si je ne compare pas la pensée chinoise à la pensée européenne, j'essaie de voir jusqu'où vont les écarts entre pensée chinoise, langue, pensée européenne, pour essayer de penser quel commun ensuite peut être promu à travers ces écarts et dans la tension de ces écarts.
Alors, il y a quelqu'un que nous avions envie de vous faire entendre, c'est Nicolas Bouvier. C'était en 1963 pour la sortie de son livre « L'usage du monde ».
Alors, je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif, et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi, et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.
Alors, Vernet étant l'illustrateur du livre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Il se trouve, François Julien, que vous évoquez dans votre livre, c'est un exemple qui étaye votre pensée, un voyage. Mais ça, on comprend vraiment très bien les choses. Un voyage de Paris jusqu'en Bretagne. Et là, comme tout voyageur, vous vous sentez dépaysé très vite, ailleurs, mais vous ne savez pas à partir de quel moment.
Oui, alors ce n'est pas seulement un dépaysement, c'est simplement qu'il y a une sorte de fêlure qui fait que je ne peux plus mettre à bord ce que je vis en sortant de Paris, et ce n'est pas la campagne, c'est pendant un certain temps, et puis ce qui vient progressivement, je ne sais pas dire exactement où, mais voyez, ce qui est important, c'est que ce n'est plus bord à bord, c'est plus il y a du hiatus. Et je crois que quand on sort du train en Bretagne, on est sur le coup, n'est-ce pas, de ce hiatus qu'on a éprouvé sans peut-être, disons, s'en rendre compte. Et alors, je crois qu'effectivement, le voyage, il suffit d'aller, de Paris en Bretagne pour éprouver cette expérience d'incommensurabilité, c'est-à-dire tout ne se range plus sous la commune mesure.
Et nous ne sommes pas, peut-être d'ailleurs, n'êtes-vous pas le même à Paris et en Bretagne? C'est un peu ce que il me semble, disait Jacques Derrida, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes rêves en fonction de l'endroit où il se trouvait.
Alors c'est aussi la vertu du voyage que de nous faire décoïncider, si je reprends ce terme, ce concept plutôt, c'est qu'on coïncide là où on est, et voyager, c'est donc décoïncider de cette coïncidence installée pour se risquer de nouveau et rouvrir des possibles. Je crois que c'est ce que fait le voyage, ce qui a été très bien dit, c'est qu'on rouvre des possibles avec la difficulté ou le tâtonnement de rouvrir des possibles, l'exigence que ça consiste aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose que beaucoup tout le monde éprouve, et il n'y a pas seulement les voyages à pied, il y a aussi les voyages par la pensée. Je veux dire, passer dans la littérature chinoise, c'est aussi faire cela, décoïncider des attentes de sa langue et disons des paramètres de sa pensée ou des cohérences qui sont installées pour se risquer ailleurs. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est une expérience de tout le monde et qui fait prouver que notre expérience, ce qui fait que nous existons, c'est que tout n'est pas bord à bord, tout ne se range pas sous la même unité de mesure, il y a l'incommensurable et nos vies se déploient à travers cet incommensurable.
François-Julien, vous avez créé une association des coïncidences. Pourquoi l'avez-vous créée en quoi consiste-t-elle?
Ça ne fait pas tout à fait slogan. Une association des petits tirés coïncidences, en plus avec un S à la fin. Oui. Donc ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une bannière, ce n'est pas quelque chose qui prêche, n'est-ce pas? Mais j'ai le sentiment, pour dire les choses très rapidement, c'est que quand les choses coïncident, donc sont adéquates, sont adaptées, on se dit c'est bien, et en fait c'est mort. Parce que cette adéquation sécrète une positivité, et donc une stérilité, comme on dit religion positive ou droit positif, voyez, une positivité qui s'endort et qui fait que tout colle, comme on dit, mais justement, c'est mort, ça ne travaille plus.
Donc c'est une façon pour vous de prendre aussi vos distances par rapport à une société où tout doit, vous le disiez tout à l'heure, s'intégrer,
coïncider,
avoir une commune mesure.
Nous vivons sous des coïncidences idéologiques qui sont comme des couvercles, n'est-ce pas ? Parce qu'une idée, dès lors qu'elle est collectivement assimilée, ne s'interroge plus sur elle-même, n'est plus réfléchie, donc sécrète une évidence qui elle-même génère une obédience et s'installe. Et ça, elle devient idéologique. L'idéologie, c'est donc cet effet de coïncidence d'une idée tellement assimilée qu'on ne l'interroge plus. Et je pense qu'il est temps de fissurer ces coïncidences idéologiques qui nous, disons, recouvrent pour rouvrir du possible. Non pas proposer autre chose, dessiner un autre idéal. Ça, c'est la révolution qui faisait cela. Ça marche plus beaucoup aujourd'hui. Mais disons, fêler ce qui s'endort, s'enlise dans son adéquation et donc ne travaille plus.
Et avoir toujours donc à l'esprit, garder à l'esprit que c'est par les fêlures que passe la lumière.
Bah oui, sinon d'où vient-elle? Sinon je suis métaphysicien et je veux que la lumière arrive d'ailleurs. Hein, ou comme dit Platon, le soleil qui éclaire du haut, le soleil ou le ciel des idées qui éclaire d'en haut. Non, si je n'ai plus, si vous voulez, cette lumière qui vient d'ailleurs, eh bien, il faut qu'elle, je l'aperçoive quand elle traverse l'expérience et qu'elle donc, elle permet aussi de la déployer en décoïncidant du confort d'une expérience rabattue.
Merci beaucoup François-Julien. L'incommensurable et aussi Moïse ou la Chine, tous les deux, les deux livres sont publiés aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Merci.
Dans un instant, donc juste après les infos, unique en son genre, Julia Foyce.